France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'ouragan Katrina, une semaine en enfer. Comme si on avait soulevé une pierre et vu ce qu'il y avait dessous. Voilà ce qu'écrit le grand écrivain américain Russell Banks après l'ouragan Katrina qui dévaste la Nouvelle-Orléans au sud des États-Unis le 29 août 2005. En quelques heures, la ville se retrouve complètement inondée. Au total, la catastrophe fait 1836 victimes et 200 milliards de dégâts. C'est le pire ouragan depuis un demi-siècle aux États-Unis. Mais ce dont parle Russell Banks, c'est autre chose. Ce sont ces images qui restent en tête encore aujourd'hui. Celles de ces cadavres flottant sur l'eau ou abandonnés dans les rues, de ces milliers de personnes sur les toits avec des panneaux « Help us », de ces dizaines de milliers d'autres errant autour d'un stade ou sur une autoroute, totalement abandonnées par l'État et les autorités qui mettent plusieurs jours à prendre la mesure de la tragédie en cours. Un scandale retentissant. Notre invité aujourd'hui, Romain Huret, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, directeur de l'EHESS. Il est notamment l'auteur du livre « Katrina 2005, l'ouragan, l'État et les pauvres aux États-Unis », livre publié aux éditions de l'EHESS, publié en 2010. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Simon Mézonob, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Samedi 27 août 2005, la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Depuis quelques jours, celle qu'on surnomme The Big Easy, la Grande Facile, porte moins bien son nom. Connue pour son atmosphère sans pareil, fruit d'un métissage unique entre berceau du jazz, culture cajun et célèbre carnaval de Mardi Gras, la plus française des villes américaines affiche aujourd'hui une ambiance inquiète. Tout le monde n'a qu'un mot en tête, Katrina, un ouragan qui naît là, à près de 300 km dans l'océan Atlantique, selon un phénomène désormais bien connu des scientifiques, une dépression qui prend la forme d'une tempête tropicale. D'abord de catégorie 1, elle a touché la Floride quelques jours plus tôt.
Katrina est maintenant dans le golfe du Mexique et se renforce rapidement après avoir fait au moins 6 morts dans le sud de la Floride. De nombreuses zones densément peuplées sont inondées et privées d'électricité.
De nouvelles informations viennent d'arriver et nous indiquent qu'il est possible que la tempête se déplace encore plus à l'ouest et qu'elle touche peut-être même la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est l'un des endroits les plus vulnérables aux ouragans, si ce n'est le plus vulnérable du pays.
Alors, c'est plutôt l'autre surnom de la ville qu'on entend le plus en ces derniers jours. The Crescent City, la ville croissant. Pour décrire cette forme si singulière qu'elle prend en épousant le delta du Mississippi et se levant contre le lac Pontchartrain. La Nouvelle-Orléans vit entourée d'eau. Et son fondateur français, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, ne s'y était pas trompé quand il est allé construire la ville en 1718 sur les terres les plus émergées. Seulement au fil du temps, l'étalement urbain a poussé la ville au-delà, dans des zones où elle se retrouve désormais à un mètre sous le niveau de la mer. Et puis dans toute la Louisiane, l'action de l'homme s'est accentuée. On a construit des canaux pour faciliter les transports, puis des digues pour protéger des inondations, et enfin des puits de forage pour le pétrole. Tout ça fragilisait l'environnement, forcément, et chaque année, la Nouvelle-Orléans s'enfonce un peu plus. Ainsi, ce samedi 27 août, l'inquiétude grandit. Pourtant, du côté des autorités locales, personne ne change vraiment son programme. Le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, assiste à des funérailles. Il y croise la gouverneure de Louisiane, Kathleen Blanco. Tous les deux démocrates, ils ne s'apprécient guère depuis que Ray Nagin a soutenu le candidat républicain lors des élections. Oui, ils pensaient que Kathleen Blanco n'avait aucune chance de l'emporter. Opposés, ils le sentent aussi sur la gravité de la crise qui couve. D'un côté, la gouverneure essaie depuis quelques jours de convaincre la Maison-Blanche de lancer l'état d'urgence. De l'autre, Ray Nagin hésite sur la méthode à suivre. Faut-il, oui ou non, lancer un ordre d'évacuation ? Cela n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de la ville. On parle quand même de près de 400 000 personnes, plus d'un million avec les banlieues environnantes. Certains conseillers municipaux s'y opposent. Ils s'inquiètent des conséquences économiques si la ville se retrouve à l'arrêt pendant plusieurs jours. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que Kathleen Blanco, soutenue par le centre des ouragans de Miami, finit par convaincre Rena et Jean de lancer un appel à évacuer.
La tempête est l'une des pires que j'ai vues. Si j'étais vous, je lancerais une évacuation obligatoire et j'essaierais de faire sortir tout le monde, parce que c'est la réalité. C'est très sérieux. C'est une tempête que tout le monde redoutait. Et quand quelqu'un comme le directeur du centre des ouragans dit qu'en 33 ans, il n'a jamais rien vu de tel, nous devrions en tenir compte.
L'ordre d'évacuation est lancé, mais il n'est pas rendu obligatoire. Et de toute façon, rien n'a été prévu pour cette opération complexe. Et puis il y a aussi quelque chose de plus difficile à décrire au sein de la population de la Nouvelle-Orléans. Un mélange de confiance et de méfiance. D'un côté, la confiance de l'habitude, celle de vivre avec cette menace de la nature, des ouragans. Un sentiment qui étreint génération après génération. Une mémoire du danger qu'on se transmet. Beaucoup se souviennent de l'ouragan Betsy, en 1965, qui avait fait 66 morts. D'autres évoquent la crue dévastatrice du Mississippi de 1927, qui avait noyé la Nouvelle-Orléans sous 6 mètres d'eau. Pareil, la ville s'est relevée. Et puis aussi une méfiance parmi la population afro-américaine, notamment celle des quartiers pauvres de la ville. Méfiance envers les autorités, nourrie par les rumeurs et les légendes. Lors de Betsy, elles avaient volontairement fait sauter des digues pour mieux répartir l'inondation. Or, cette déviation avait immergé en majorité les quartiers noirs et pauvres. De là y voir une intention. Et puis il y a une méfiance à l'idée de laisser sa maison à l'abandon, souvent la seule chose qu'on possède. Mais la menace Katrina, elle, continue de grandir. Le dimanche 28 août, le président américain George Bush, réélu depuis un an, est en vacances au Texas. Il est prévenu lors d'une visioconférence par le directeur du Centre national des ouragans de la gravité de ce qui arrive, et notamment d'un risque que l'on craint particulièrement, celui des digues.
Ok tout le monde, on y va. On commence, il est midi et on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui.
Si les vents très forts coupent le lac Pontchartrain, une partie de l'eau du lac Pontchartrain va s'accumuler sur la rive sud. Je ne pense pas que l'on puisse vous dire avec certitude aujourd'hui si les digues seront ou non dépassées, mais c'est évidemment une très très grande préoccupation.
Je tiens à remercier les fonctionnaires de la Louisiane, de l'Alabama et du Mississippi d'avoir écouté ces avertissements et d'avoir préparé leurs concitoyens à cette énorme tempête.
Le dimanche 28 août, une longue file de voitures se forme à la sortie de la Nouvelle-Orléans. Il n'y a que deux routes pour sortir de la ville. Alors, c'est un flot ininterrompu de véhicules, pare-choc contre pare-choc, jusqu'à Jackson, situé à 300 km au nord. Les craintes se confirment. Katrina entre en catégorie 5. Les vents atteignent 280 km/h. L'œil du cyclone mesure 40 km. C'est un monstre qui s'avance sur les côtes de la Louisiane. Alors il y a ceux qui s'enfuient et ceux qui ne peuvent pas s'enfuir. Plus de 100 000 personnes ne sont pas motorisées. Or, le système de transport public ne peut déplacer que 10% de la population, grand maximum. Et puis les plus pauvres ne peuvent pas se payer l'essence ou le motel. Ils sont à court de liquidités pour envisager un tel exode. Sans compter les personnes en mauvaise santé ou handicapées. Le maire, Rayne Jean, annonce qu'il y a des refuges prévus comme le Superdome, le stade de football américain de la ville, dont l'infrastructure et le toit doivent pouvoir résister aux ouragans. Il peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. Pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, il est demandé au personnel de rester sur place pour s'occuper de ces personnes ne pouvant pas être déplacées. Résultat, près de 80 000 habitants restent chez eux et se barricadent. La Nouvelle-Orléans devient une ville fantôme.
On est en plein dedans, on ne peut plus sortir de la porte de l'aéroport, hein. Ça y est, c'est fini. On serait emporté immédiatement, il y a des taux qui volent, et il n'y a plus de possibilité de se déplacer.
Hein. On a peur que les fenêtres explosent par la même occasion. Et donc la majorité des personnes sont assez peur que le Mississippi déborde et que ça puisse que les routes puissent devenir des rivières, en fait, si vous voulez. Personne ne circule, personne n'a le droit de circuler.
On dirait une rame de métro de New York. D'autres ont dit qu'ils pensaient que c'était le tonnerre ou quelqu'un qui frappait la toiture. Et d'une certaine manière, c'est le cas. C'est Katrina qui défonce le toit pour essayer d'entrer. Et puis ceci, la première brèche visible dans le toit. C'est la lumière du jour qui passe et la pluie qui entre.
Lundi 29 août, Katrina s'abat d'abord dans le comté de Harrison, sur les villes de Biloxi et de Gulfport, à l'est de la Nouvelle-Orléans. Même s'il a baissé d'intensité en force 3, l'ouragan frappe comme une tonne de briques, déclare le gouverneur du Mississippi. Les arbres et les pylônes sont arrachés, les maisons sont littéralement coupées en deux, les bateaux, amarrés dans les ports, sont projetés au milieu des routes. Les casinos qui longent le littoral, véritable poumon économique du coin, sont détruits. On dénombre des centaines de victimes. Le vent et la pluie s'abattent sur la Nouvelle-Orléans. Tous parlent d'un bruit indescriptible, infini, terrifiant qui traverse la ville, frappe les volets, bat les portes, comme une déflagration qui s'engouffre partout. Heureusement, au dernier moment, Katrina dérive sa trajectoire et ne passe pas en plein cœur de la ville. Mais très rapidement, le soulagement cède la place à une peur plus grande encore.
Comment ça va?
J'ai dû partir de chez moi. On dirait que le lac a débordé.
Quoi?
Vous ne savez pas que l'eau du lac a dépassé les digues?
Non.
Regardez, l'eau est tellement montée que je n'ai pas pu rester chez moi.
Allô? Allô? Il y a une urgence dans ma maison. Le toit. Le toit de ma cuisine. Il pleut dans ma cuisine.
La grosse marée de tempête que l'Amérique n'ait jamais connue s'abat sur les digues qui entourent la Nouvelle-Orléans et les détruisent. Plus loin, Katrina entraîne l'eau du parc Pontchartrain vers le sud et jusque dans le système des canaux de la ville. Après les digues, c'est autour des murs de béton protecteurs de ces deux. À Lower Nainsward, dans l'un des quartiers pauvres de la ville, l'eau monte de 4 mètres en 20 minutes. Une vague immense s'engouffre dans les rues. Elle emporte tout ce qu'elle trouve sur son passage. En quelques instants, les habitants de la Nouvelle-Orléans restés sur place se réfugient aux étages de leur maison ou de leur immeuble. Enfin, ceux qui ont le temps, ou ceux qui le peuvent. Alors, de nombreuses personnes se font emporter et meurent noyées. En seulement quelques heures, Katrina dévaste la Nouvelle-Orléans et ses alentours. La ville est totalement engloutie. Seuls dépassent les toits des maisons et des immeubles. La majeure partie des lignes téléphoniques sont coupées, l'électricité aussi. Ce lundi 29 août 2005, la Nouvelle-Orléans bascule dans une tragédie à laquelle elle ne s'était pas préparée et qui va prendre une ampleur terrifiante. There is a house in New York. They call the rising sun. It's been the ruin of many a girl, and I am only one. If I what my mama said, I'd have been at home today. But being young and foolish, I let a gambler lead me astray. She's a tailor, sold those new blue jeans.
drunkard drinks way down in New Orleans. Go tell my baby sister never do. They call the rising sun. One foot is on the platform, the other one on this train. Going back to New Orleans, can't get rid of my ball and chain. There is a house in
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'ouragan Katrina.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Devant nous se trouve le canal London, un canal de décharge. On voit bien l'endroit où s'est rompue la digue. Voici une autre maison inondée, une belle maison en briques à un étage. La voiture de son propriétaire, un break, a totalement disparu, on ne la voit plus. Elle est entièrement sous l'eau. Là-bas, c'est la plus grosse rupture de digue.
Mardi 30 août 2005, la Nouvelle-Orléans se réveille dans le silence et la mort. L'eau est partout. Des arbres, des poteaux électriques, des voitures et surtout des cadavres qui flottent. Des incendies ont éclaté à divers endroits. Des usines déversent leurs produits chimiques dans l'eau. Sur les toits, les gens sont bloqués. Et bientôt, c'est la chaleur qui s'abat sur la ville, pratiquement 40 degrés. Côté secours, la situation est catastrophique. Les camions et bateaux qui avaient été placés dans une zone proche du centre pour pouvoir servir rapidement, ont été engloutis. Dans les hôpitaux, les coupures de courant provoquent une situation critique pour tous les patients branchés à des machines. Le personnel se relaie pour les ventiler manuellement. La catastrophe désorganise complètement les forces d'intervention. Les pompiers, les policiers ne sont ni équipés ni formés à évoluer dans ce type d'environnement inondé. Les bâtiments de la garde nationale sont également sous l'eau et leur matériel de sauvetage est rendu inutile. Quelques hélicoptères commencent à survoler la zone et à venir en aide aux personnes sur les toits. Les gardes-côtes, les seuls à avoir des bateaux rapides facilement accessibles, commencent à récupérer des rescapés. Littéralement piégés, certains décident de ne pas attendre les secours et de se mettre à l'eau. Alors, ils se servent de tout ce qu'ils peuvent pour flotter et protéger quelques affaires. Il faut évoluer dans les eaux troubles et qui montent. Finalement, quand ils arrivent à atteindre les quartiers secs, ils se dirigent vers le Superdome et vers un lieu appelé Convention Center. Le mercredi 31 août et le jeudi 1er septembre, la ville sombre en plein cauchemar. Et ces deux lieux, le Superdome et le Convention Center, deviennent les catalyseurs du désastre. Face à l'afflux des sinistrés, rapidement, les conditions de vie se dégradent. Les sanitaires sont saturés, l'odeur devient insupportable. Et puis la nuit, sans lumière, le lieu devient dangereux. La tension monte, quelques barrages éclatent. Il y aurait même eu des viols. Au centre des conventions, où rien n'était initialement prévu, et où 20 000 personnes s'entassent, c'est immédiatement le chaos. Avec la chaleur, le manque d'eau devient dramatique. Les personnes âgées ou malades et les bébés se déshydratent. Les premiers témoignages parviennent.
C'est un génocide moderne. Entasser des milliers de personnes comme ça,
comme des chiens.
Il y a 6 corps par terre au premier étage. Ce matin, j'ai trouvé une femme sur une chaise roulante dans les toilettes et une autre femme allongée sur le sol. Elle était morte. Et personne n'enlève les corps. Ça sent la mort à l'intérieur. Partout.
Confinés, laissés à l'abandon, sous une chaleur infernale, les sinistrés n'en peuvent plus. Et les esprits s'échauffent. Mais enfin, pourquoi le maire ne se rend-il pas sur place, au Superdôme ? Où sont les forces de l'ordre pour assurer la sécurité ? Certains affirment avoir vu des policiers fuir la ville. Souvent à tort. En tout cas, ces rumeurs de violence ou de fuite favorisent l'inquiétude, le stress, la panique. Le Superdôme est pourtant surveillé par la garde nationale, qui tente tant bien que mal de faire respecter certaines règles. Mais la population réagit mal à celle-ci. Il faut dire que la situation sanitaire s'aggrave d'heure en heure. Sans ressources ni vivres, les gens se servent dans les magasins et centres commerciaux. La plupart du temps pour prendre de quoi tenir, des biens de première nécessité, mais parfois pour récupérer des objets non nécessaires, comme des télés ou des DVD. Et comme toujours, les médias relais en boucle ces images et présentent les pillages sur le ton du scandale et du chaos. Des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et les pilleurs. Un journaliste ne manque pas de souligner l'absurdité de la situation.
Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes villes d'Amérique, la Nouvelle-Orléans. Ici, nous avons ce qui ressemble à un camp de réfugiés avec des milliers de personnes qui attendent de l'aide médicale, alimentaire, de l'eau et j'en passe. Et puis là-bas, la police, des dizaines de policiers, tous préoccupés par un pilleur qui se trouve dans ce supermarché.
Inévitablement, la question que tout le monde se pose, c'est bon sang, que font les autorités ? Eh bien, pas grand-chose, non. Elle semble complètement dépassée, à tout niveau. Le président George Bush n'a rien changé à son programme. Il est en déplacement en Floride pour un discours sur l'Irak, sa mortifère obsession. Le vice-président Dick Cheney, lui aussi totalement obsédé par le complot ourdi contre le pays de Saddam Hussein, ce faucon est à la pêche. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Michael Chertoff, assiste à une conférence d'épidémiologie. La secrétaire d'État, Condoleezza Rice, est prise en photo au théâtre. En vérité, tous les regards se tournent vers un certain Michael Brown. Il est le directeur de la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des catastrophes. C'est un proche de George Bush, qu'il a nommé à ce poste en janvier 2003. Ce Michael Brown affiche un parcours pour le moins singulier, puisque son job précédent était dans le lobby du pétrole, de gérer l'événementiel de l'Association internationale des chevaux arabes. Surtout, depuis les attentats du 11 septembre 2001, George Bush a décidé de regrouper la FEMA en une dizaine d'autres institutions sous une seule et même entité, celle du secrétaire à la sécurité intérieure, un portefeuille censé centraliser et donc faciliter la prise de décision. Or, Katrina est en train de révéler tout l'inverse. Il semble en effet que l'information sur la gravité de la situation et des besoins urgents d'aide n'arrive pas à remonter jusqu'à l'échelle nationale. Non, la situation est observée comme locale et non comme fédérale. Et à chaque étape de la chaîne, ça bloque. La gouverneure, Kathleen Blanco, ne parvient pas à faire entendre sa voix. Le directeur de la FEMA, Michael Brown, dit qu'il a prévenu au-dessus de lui, mais qu'il n'a pas eu de retour. Alors, face à l'inaction gouvernementale, Ray Najin, le maire de la Nouvelle-Orléans, depuis son QG dans un hôtel de la ville, craque en direct à la radio.
J'ai besoin de renforts. J'ai besoin de troupes. J'ai besoin de 500 bus. En parlant de... Vous savez, l'un des briefings parlait d'obtenir des chauffeurs de bus d'écoles publiques pour venir ici et transporter les gens. Je me disais... Vous vous moquez de moi ? C'est une catastrophe nationale. Il faut faire venir les bus Greyhound du pays à la Nouvelle-Orléans. Vous savez pourquoi les pillards sont devenus incontrôlables ? Parce que nous avons consacré la plupart de nos ressources à sauver des gens, des milliers de gens, des hommes, des vieilles dames. Quand on regarde ce qu'il se passe, on voit qu'ils sont là avec de l'eau jusqu'au cou. Personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. Tout le monde débarque 2 jours après la catastrophe, quand tout est fini, avec des caméras, des journalistes. et tout ce putain de pays tout entier. Excusez mon langage, mais je suis énervé.
Pendant ce temps, les images de la catastrophe font le tour du monde. Et elles font inévitablement écho au tsunami en Asie du Sud-Est, un an plus tôt. Alors, l'aide internationale afflue partout. Des pays parmi les plus pauvres du monde, comme le Sri Lanka ou le Bangladesh, envoient de l'argent. L'Europe expédie de l'aide matérielle. Même Cuba, le voisin ONI, propose ses services. Le symbole est particulièrement fort. Comment la première puissance du monde, capable de se déployer partout à travers le globe en moins de 2 jours, peut-elle laisser ses propres citoyens sans aucune ressource pendant 3 jours? Comment expliquer qu'elle ne soit pas capable d'organiser le secours et d'évacuer les sinistrés plus vite? Alors forcément, les critiques s'expriment. Est-ce que cela se serait passé de la même façon si l'ouragan avait frappé les riches maisons de Floride, où le gouverneur n'est autre que le frère du président Bush? Si les quartiers ensevelis avaient été les coins riches sur les hauteurs ou touristiques du centre? Si les pauvres sinistrés qui errent depuis près de 3 jours autour du Superdome et du Convention Center avaient été blancs et non afro-américains? On soupçonne même une sorte d'inconscient mystique. La débauche de la trop libre Nouvelle-Orléans ne serait-elle pas punie par cette catastrophe? Face à ces critiques, Condoleezza Rice prend la parole.
Je suis une Afro-Américaine. Je suis originaire de l'Alabama et je peux vous dire que cette réponse n'est pas une réponse sur la couleur. Il s'agit d'une réaction d'Américains qui aident des Américains. Aucun Américain ne veut voir un autre Américain souffrir.
Pourtant, malgré ces discours, des scènes et des histoires surprennent, où l'on prend conscience de la division du pays à travers les réactions en cas de catastrophe. Et puis les fausses informations jouent un rôle particulièrement néfaste. Elles retardent certains secours, qui ne peuvent pas intervenir, par peur de situations violentes sur place. Un épisode notamment marque les esprits. Les images de pillage, les rumeurs de meurtres et de viols au Superdome et à Convention Center ont mobilisé les forces de l'ordre des villes voisines de la Nouvelle-Orléans. Ainsi, à Gretna, petite cité qui se trouve de l'autre côté d'un pont qui mène à la ville inondée, la police n'a pas hésité à tirer sur des sinistrés qui essayaient de le traverser. On compte 2 victimes. Quant à la représentation du pouvoir fédéral, la question est sur toutes les lèvres. Pourquoi George Bush met-il autant de temps à se rendre sur place? Remonte alors le souvenir de Lyndon Johnson, président texan, lui aussi, au milieu de l'eau, après l'ouragan Betsy de 65, éclairé d'une simple lampe de poche auprès des sinistrés. Et puis, au-delà de sa présence, quand on voit la situation, est-ce que l'intervention en Irak est vraiment une priorité? La question ne manque pas de surgir, dès que George Bush arrive enfin en Louisiane, le vendredi 2 septembre.
Et le voilà à Biloxi, compatissant avec la douleur de certains des survivants. Il est très doué pour ça, mais beaucoup pensent qu'il aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Ensuite, on lui pose la question qui pourrait bien venir le hanter au cours de son second mandat. La guerre en Irak et l'ouragan Katrina. La tempête parfaite. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'on dépense trop d'argent en Irak?
Je ne suis pas du tout d'accord. Nous avons pour mission de défendre ce pays dans la guerre contre le terrorisme. Et nous avons pour mission d'apporter aide et réconfort aux habitants de la côte du Golfe. Et nous ferons les deux.
Le matin même, le vendredi 2 septembre donc, une réunion houleuse a lieu sur le tarmac de l'aéroport de la ville entre Kathleen Blanco, la gouverneure, Rena Jean, le maire, et George Bush, le président. La grande explication débouche sur un accord politique qui permet d'accélérer l'arrivée des ressources et des soldats de la garde nationale. Et les secours arrivent enfin. Une colonne de bus et des ambulances évacuent le Superdome et le Convention Center. Forcément, tous les regards se tournent vers la FEMA et Michael Brown, son directeur. Les journalistes commencent à élever la voix et à poser les questions qui dérangent.
Vous n'étiez pas au courant de la situation au Convention Center jusqu'à hier. Quand l'avez-vous appris hier?
Je crois que c'était hier matin que nous l'avons appris. Nous avons été aussi surpris que les autres. Nous ne savions pas que la ville avait utilisé cet endroit comme zone de transit. Cela montre à quel point la communication est difficile.
La FEMA est sur le terrain depuis 4 jours et entre dans son 5e jour. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de largage massif de nourriture et d'eau? À Banda Aceh, en Indonésie, il y a eu un largage de nourriture 2 jours après le tsunami.
Nous nourrissons ces personnes dans le Convention Center. Nous avons nourri plus de 150 000 personnes jusqu'à hier soir.
Mais voilà, la question n'est pas de savoir ce qui s'est passé hier soir. Monsieur, pardonnez-moi, mais je dois vous arrêter sur ce point.
Ce que nous entendons, c'est la frustration des gens. Il y a des gens qui commencent à se manifester hors de la zone identifiée et dont nous ignorions l'existence.
Mais pourquoi découvrez-vous cela maintenant? Cela fait 5 jours que la FEMA est sur le terrain. Le chef de la police dit que ça fait 5 jours que la FEMA est là. Le maire, l'ancien maire, a lancé des SOS mardi matin en pleurant à la télévision nationale en disant « S'il vous plaît, envoyez des troupes ». Donc oui, je comprends que vous nourrissez les gens et que vous essayez d'entrer maintenant, mais on est vendredi. Vendredi.
Le samedi 3 septembre, l'opération de transfert se met en place. La Croix-Rouge américaine organise une intervention sans précédent, avec des centaines de milliers de bénévoles, prêts à fournir 500 000 de repas. L'aéroport Louis Armstrong devient le centre de regroupement depuis lequel les sinistrés sont répartis partout à travers le territoire américain. Parce qu'il faut s'imaginer, 273 000 personnes ont perdu leur maison et sont sans domicile. 273 000. Beaucoup ne reviendront jamais vivre à la Nouvelle-Orléans. 22 millions de tonnes de débris, 350 000 voitures et 60 000 bateaux doivent être envoyés à la casse. Il faudra des années à la Nouvelle-Orléans pour se reconstruire. Une fois passé le souffle de la tragédie, les explications commencent à surgir et les accusations avec. Michael Brown, le directeur de la FEMA, est remercié la semaine qui suit le passage de l'ouragan. Pour beaucoup, il sert de bouc émissaire à une catastrophe dont les causes sont bien plus profondes et structurelles. Le système de digues s'était affaibli depuis des années. Mais face au coût que cela impliquait de les réparer, les travaux n'ont jamais été lancés. Pire, on découvre qu'il existait un rapport du nom de PAM, écrit après l'ouragan Ivan de 2004, qui posait exactement le scénario de Katrina et l'inondation prévisible de la majeure partie de la ville. Lors d'un discours, quelques années plus tard, le nouveau président Barack Obama eut ces mots qui résonnent très fort aujourd'hui, à l'heure de remonter le temps de cette tragédie. La Nouvelle-Orléans est la porte d'entrée menant vers l'âme de l'Amérique, une cité où le jazz fait pleurer et où les enterrements font danser. Et Wynton Marsalis, jazzman de génie de la Nouvelle-Orléans, lui donne raison lorsqu'il se met à chanter a cappella sous la caméra de Spike Lee, ce vieux standard du blues, entré dans la légende par Louis Armstrong, pour la mémoire de cette longue semaine en enfer après Katrina.
Well, I went down to St. James Infirmary. I saw my baby there. Well, she was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so fair. Oh, let her go, God bless her. Wherever she may be. Why she could look this whole wide world over. She ain't never gonna find another sweet, sweet man like me. When I die, Lord, I want you to bury me in a box back coat and my Stetson hat. Put a $20 gold piece in my pocket so the boys will know I died standing pat. St. James Infirmary. St. James Infirmary.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'ouragan Katrina. Notre invité, Romain Huvret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, directeur de l'EHESS, et vous êtes notamment l'auteur du livre Katrina 2005, l'ouragan, l'État et les pauvres aux États-Unis, livre publié aux éditions de l'EHESS, publié en 2010. Alors, les journalistes ont le goût des formules, vous savez, parfois elles sont excessives. On a dit une semaine en enfer. Apparemment, on n'est pas excessif. C'était vraiment l'enfer. D'ailleurs, quel souvenir en gardez-vous ? Je crois que vous étiez à Washington au moment des faits.
Oui, c'est une semaine, je ne sais pas si c'est infernal, si c'est, ça ressemble à l'enfer, mais en tout cas, c'est une très longue semaine pour tout le monde, avec des informations qui arrivent au compte-goutte et qui arrivent par beaucoup de journalistes, notamment un journaliste très célèbre qui s'appelle Anderson Cooper, qui est le journaliste star de CNN, et qui a des propos très étonnants, qui sort de sa réserve traditionnelle, de son objectivité journalistique, et qui passe son temps à dire « ce n'est pas l'Amérique ce que je suis en train de voir, quelque chose est en train de se dérégler de manière incompréhensible, et on n'est pas aux États-Unis, on est à Bagdad ». Et j'ai couvert Bagdad, je suis allé en Irak, je suis allé en Afghanistan, je suis allé dans les zones de guerre, et ce que je vois là au cœur des États-Unis, en Louisiane, ce n'est pas l'Amérique.
Alors, vous disiez la Nouvelle-Orléans est une ville singulière aux États-Unis, avec une histoire aussi singulière.
Oui, une histoire très singulière, une histoire très métissée, hein. C'est une terre de migration, la Nouvelle-Orléans. Beaucoup de migrants sont arrivés par New York et par la Nouvelle-Orléans. Donc on a une ville extrêmement métissée, une ville très créatrice. Une ville très progressiste aussi, qui a toujours été ouverte aux minorités sexuelles, par exemple. Et elle a une mauvaise, pour beaucoup de conservateurs, elle a très mauvaise réputation. Ça a été dit dans le reportage. Hein, on compare la Nouvelle-Orléans à la Nouvelle-Sodome, hein, une ville de perdition, hein, où les gens vont simplement boire et faire la fête. Et donc, cette réputation joue pendant la longue semaine. Hein, puisqu'on voit des évangélistes, des conservateurs qui parlent de punition divine en disant que la ville est punie pour ses péchés, pour sa gay pride qui est très célèbre dans le pays. Et donc Dieu est intervenu et Dieu a puni la Nouvelle-Orléans.
Alors revenons à des choses sérieuses. La Nouvelle-Orléans a également une topographie particulière. Vous citez une jolie formule de Craig Colton. Une métropole si peu naturelle, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, elle a été entièrement... Ce que veut dire Craig Colton, c'est que ça a été entièrement refait, adapté par l'homme, hein, puisque la topographie n'est pas naturelle et donc il a fallu rester sur place et arriver à faire avec les éléments naturels. Et là, on voit bien que cette fois-ci, les éléments naturels reprennent le dessus, en quelque sorte. Et on a un double événement qu'on entend très bien dans le reportage. C'est à la fois l'ouragan, donc ces vents d'une violence extraordinaire, et dans le même temps l'inondation. C'était prévu dans les pires cauchemars de toute la population. On appelait ça le scénario catastrophe de Big One, celui qui pouvait arriver un jour, et il arrive pendant cette longue semaine de la fin du mois d'août.
Confirmation, comme on savait bien tout, le rapport PAM, découvert ensuite, et on l'évoque dans cette archive.
Nous avons prédit cette tragédie, mais ce qu'on avait anticipé par écrit ne peut se comparer à ce qu'on ressent maintenant face à ce qui s'est passé. Je sais que dans certaines de ces maisons, il y a encore des corps. Et on peut le sentir. C'est un peu plus réel. Ça dépasse tellement ce qu'on avait pu imaginer. Mes sentiments ont évolué de l'incrédulité à la colère, d'une profonde tristesse, aux questions. Est-ce que j'aurais pu faire plus ? Est-ce que nous aurions pu faire quelque chose pour empêcher cela, pour que les gens réagissent avant ?
Pourquoi ne vous a-t-on pas écouté ?
Quelques personnes nous ont écoutés au plan local et national, mais dans l'ensemble, le gouvernement fédéral ne nous a pas écoutés. En fait, il y a eu des moments où ils se sont foutus de nous. Ils ont ri de nos idées. Vous savez, c'est presque comme s'ils pensaient qu'ils savaient tout, et que nous, professeurs d'université, on ne pouvait pas aider, on ne pouvait pas savoir.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Beaucoup de tristesse et de colère aussi. On l'entend dans la voix de la personne qui prend la parole. Hein. On avait prédit cette catastrophe. Beaucoup l'avaient annoncé. Beaucoup avaient réclamé des politiques de prévention de la catastrophe. Même si les catastrophes sont ordinaires aux États-Unis, vous l'avez dit au début, hein, on appelle la fin du mois d'août, début septembre, hurricane season, la saison des ouragans. Et donc, peut-être bien le comprendre pour des auditeurs français, les Américains ont l'habitude. C'est-à-dire, on sait très bien qu'à partir de ce moment-là, les ouragans arrivent et donc on se prépare. Il y a toute une logistique. Hein, on fait des provisions, la voiture est prête, on prépare les enfants, la famille à partir. Mais le scénario catastrophe peut arriver et on savait qu'il pouvait arriver. Ce schéma que je viens de décrire, ouragan plus inondation, pouvait arriver. Et ce qui est très frustrant et ce qui suscite beaucoup de colère, c'est que des gens avaient prédit ce scénario et avaient réclamé un plan d'évacuation de la ville. Hein. Et avec le recul, on est stupéfait de voir qu'il n'y avait aucun plan d'évacuation de la ville en cas du Big One, hein, du scénario catastrophe.
Mais si l'on en croit cet enseignant qu'on vient d'entendre, il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer que l'ouragan pouvait être si fort.
Ça fait partie des prévisions, ça fait partie de la science, c'est une spécialité. Ouais. Il y a des gens qui travaillent dessus, il faut leur faire confiance, ils peuvent prévoir. Et il faut les écouter lorsqu'ils discutent avec le pouvoir politique. Et malheureusement, le désastre a montré qu'il aurait fallu les écouter.
Alors, l'institution que vous dirigez est une institution de sociologie, on est bien d'accord ? Le HESS,
études de sciences sociales. Il y a la sociologie, mais il y a d'autres sciences sociales.
D'accord. Et c'est pour ça qu'on va aller sur ce terrain-là. Cet événement soulève les questions de la représentation des pauvres et de la sécurité sociale aux États-Unis. Le bon et le mauvais pauvre, en quelque sorte. Les Afro-Américains représentent 76% des victimes de l'inondation, alors qu'ils représentent 67% de la population totale. C'est un chiffre qui dit beaucoup de choses.
Oui, tout à fait, et qui montre bien à la fois la part des Afro-Américains dans la ville, hein, et cette ville est une ville afro-américaine, hein, et le jazz qu'on a écouté aujourd'hui renvoie à cette culture afro-américaine. On a évoqué aussi ces temps incroyables que sont les enterrements à la Nouvelle-Orléans, mais le revers de ce caractère festif de la ville, hein, ce caractère afro-américain, c'est la grande pauvreté de la ville, et beaucoup d'Afro-Américains ne pourront pas partir, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens physiques. Pour partir, il faut avoir une voiture, c'est tout simple, mais pour évacuer une ville, il faut un moyen de locomotion quand il n'y a pas de transport public. Soit parce qu'ils vont décider de rester parce qu'ils n'ont que ça. Pour partir, il faut aller quelque part aussi. Et là où la classe moyenne blanche avait des lieux de destination, la famille, certains sont partis dans d'autres États ou d'autres villes de l'État de Louisiane, beaucoup d'Afro-Américains ne savaient pas où aller, donc vont essayer de rester parce que leur univers se limite en quelque sorte à quelques pâtés de maison, à leur quartier. J'ajouterai une dernière chose qui renvoie aussi à la vulnérabilité générale de la population afro-américaine. Il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont malades, qui n'ont pas voulu partir. Parce que quitter sa maison quand vous êtes malade, c'est très compliqué. Ça crée beaucoup de peur.
Bien sûr.
On a peur de ne plus avoir les médicaments à disposition, de ne plus avoir le médecin à proximité. Donc on a beaucoup de gens qui vont rester aussi, non pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce qu'ils sont très vulnérables et ils craignent que le déplacement accentue leur maladie.
Est-ce qu'on peut parler de scandale civique ?
Ce qui est scandaleux, c'est l'inaction. Ce qui va être incompréhensible pour une grande partie de la population, dans l'État et en dehors de l'État, c'est l'hyper-action de l'administration Bush. Et George Bush, il ne faut pas l'oublier, est un président mal élu en 2000. Mmh. Et il devient président au moment du 11 septembre. Tout le monde est d'accord avec ça, parce qu'il devient un président d'action.
Ouais.
Il va monter sur les gravats le lendemain de son arrivée à New York en disant « on va mener la guerre contre Al-Qaïda, on va aller chercher les terroristes et on va répondre à cet acte infamant sur le sol états-unien ». Et là, il y a un contraste qui est saisissant et qui est fait par tout le monde. Hein. On a hyper réagi, on a su réagir de manière très brutale, très violente, en mobilisant tous les moyens de la nation. Et là, avec les propres citoyens, hein, qu'on appelle des réfugiés, alors qu'on parlait de citoyens états-uniens, de gens qui ont le droit de vote, qui votent dans le pays, on a l'impression d'avoir des sous-citoyens ou des non-citoyens. Et donc ce drame, hein, renvoie aux pires heures de la nation, à l'esclavage. La métaphore va être beaucoup utilisée, avec l'impression qu'il y a deux catégories de citoyens dans le pays.
France Inter. Affaires sensibles.
Romain Huret, la Nouvelle-Orléans, la saveur d'une cité autrefois plus afro-caribéenne et créole qu'américaine, hein, c'est en partie dilué dans la tempête, déplorent certains habitants. D'ailleurs, beaucoup ne sont jamais revenus. La ville compte aujourd'hui 100 000 habitants de moins qu'avant Katrina, et ce malgré de nombreux nouveaux venus. Alors, la part de la population noire a nettement baissé, passant de 68% en 2000 à 60% en 2013, comme quoi Katrina n'est pas qu'un mauvais souvenir, c'est peut-être même une rupture dans l'histoire de la Nouvelle-Orléans.
Oui, rupture dans l'histoire de la ville, rupture dans l'histoire de personnes qui sont parties et jamais revenues, rupture aussi dans l'histoire de la musique, beaucoup de musiciens et de musiciennes sont partis aussi, et on a eu une reconstruction de la ville qui a été beaucoup critiquée, comme souvent après les catastrophes, où on a eu un peu l'impression que certains voulaient transformer la ville en Disneyland, hein, voulaient utiliser cette occasion unique de reconstruire pour créer des hôtels et pour que la ville perde un peu son âme dans un tourisme qui est parfois un peu surfait et qui vend de l'alcool et du mauvais jazz à des touristes en manque d'émotion.
Alors, cette affaire résonne avec aujourd'hui. Évidemment, on pense à une autre catastrophe de nature différente, mais une catastrophe naturelle quand même, les incendies de Los Angeles en début d'année. Écoutons une archive.
Les incendies de Los Angeles ont tué au moins 24 personnes et le bilan risque de s'aggraver. Les secouristes parcourent les débris avec des chiens renifleurs à la recherche des corps. Les bâtiments réduits en cendres sont innombrables. Dans les localités où les flammes se sont retirées, des habitants racontent les risques qu'ils ont pris pour sauver leur maison. Face au pillage, dans les zones sinistrées, un couvre-feu est en vigueur entre 18h et 6h du matin. Donald Trump critique les autorités locales. Le président élu parle de politiciens incompétents, n'ayant aucune idée de la manière d'éteindre les incendies.
Alors, ouragan, feu de forêt, tout cela nous renvoie aussi au dérèglement climatique et à la gestion du dérèglement climatique. Avec Trump, c'est assez mal parti quand même.
Oui, c'est plutôt très mal parti. Et un refus d'entrer dans une politique de prévention des risques climatiques. Et on voit que dans les deux cas, que ce soit à Los Angeles ou à Nouvelle-Orléans, il y a un manque de coordination qui peut être terrible pour les habitants qui sont les premiers concernés par ces catastrophes qui se multiplient aux États-Unis et de manière très inquiétante.
Et quand on connaît les rapports de Trump avec la vérité scientifique, c'est quand même inquiétant.
C'est inquiétant, mais il ne faut pas oublier que le pays est aussi le premier producteur de savoir permettant de comprendre le réchauffement climatique. Les universités états-uniennes sont des lieux où on écrit beaucoup, on travaille beaucoup sur le réchauffement climatique, on met en place des politiques de prévention. Donc on peut espérer que Trump écoutera les universitaires aux États-Unis et dans le reste du monde.
Alors vous êtes un spécialiste des États-Unis, il y a une belle littérature que vous signez, j'ai deux livres entre les mains. Le premier, vous le signez tout seul, Romain Huret, Les millions de Monsieur Mellon. Autrement dit, le capitalisme en procès aux États-Unis de 1933 à 1941. Que nous raconte ce livre? Que nous dit-il?
Il nous raconte un procès pour évasion fiscale d'un ministre des Finances qui s'appelle Andrew Mellon, qui est très connu, qui est un banquier très célèbre. Il y a beaucoup de banques Mellon encore aujourd'hui aux États-Unis. Et dans les années 30, le président Roosevelt va lui réclamer 3 millions de dollars pour impayé. Et j'ai utilisé ce procès pour en faire une histoire du capitalisme et en faire une histoire qui n'est pas sans résonance avec la période actuelle.
Oh, c'est très affaire sensible, ça, dites-moi. On se retrouvera un jour prochain.
J'espère.
Et puis, il y a un autre livre signé avec notre ami Thomas Negaroff qui s'appelle « États-Unis, anatomie d'une démocratie ». Et alors, il y a tout un tas de choses intéressantes dans ce livre. Moi, j'ai bien aimé les textes et documents qui nous rafraîchissent la mémoire à travers des extraits de discours de présidents lors de leur investiture. Alors, on a Nixon, on a Carter. Qu'est-ce que ça nous dit?
Ça montre bien la crise actuelle de la démocratie. Quand on les met bout à bout, on voit des discours souvent très optimistes pendant très longtemps. Et là, on sent que le ton devient plus sombre, plus angoissé. Et l'historien que je suis peut lire dans la longue durée ce changement de ton. Un pays qui a été construit sur le progrès, l'avenir, l'espoir. On sent que le ton est en train de changer. Et sans doute, Katrina 2005 a peut-être été un tournant dans le renversement de cet optimisme qui a longtemps marqué le pays. On sent que le pays est en train d'être rattrapé par des catastrophes, des crises. Et tout cela crée beaucoup d'angoisse pour une population qui n'en avait pas l'habitude.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'ouragan Katrina, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Beaudoin.